Bonjour, vous écoutez l'épisode 8 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétique naturelle et aujourd'hui nous allons parler des tests de stabilité et de compatibilité. Alors, avant la mise sur le marché, nos cosmétiques ont dû être examinés attentivement pour s'assurer de leur sécurité, de leur robustesse et de leur efficacité. Nous avons énuméré tous ces tests dans l'épisode 4 sur le développement cosmétique, donc dans lequel nous avions aussi évoqué les tests de compatibilité et de stabilité. Donc, le test de stabilité atteste que le produit va garder la même sensorialité tout au long du temps, tout au long de sa vie en tant que produit. Et le test de compatibilité atteste qu'il n'y a pas de réaction involontaire entre l'emballage et la formule. Donc la question du jour à laquelle on va s'intéresser dans cet épisode, c'est comment la marque fait pour assurer que son produit a une bonne stabilité au cours du temps et une bonne compatibilité, donc c'est-à-dire que le produit soit encore apte à être mis sur le marché, et ça jusqu'à 3 ans après sa production. Parce que c'est pas possible, c'est pas viable pour la marque d'attendre 3 ans après la production, de vérifier au bout de 3 ans si le produit est encore bon, et si seulement si le produit est bon, de mettre sur le marché. C'est pas possible de reculer le lancement de 3 ans, juste pour vérifier ça. En effet, la cosmétique, c'est un secteur qui est très mouvant, donc ce qui implique un certain dynamisme, une certaine réactivité. Il n'est donc pas d'usage d'attendre la fin d'un test de stabilité en temps réel pour lancer son produit. À la place, les marques performent des tests de stabilité en conditions accélérées, donc c'est-à-dire que le produit est mis dans des piluliers en verre, donc dans des petits contenants en verre, et gardé dans des étuves à différentes températures. Alors, pourquoi dans des contenants en verre? Pourquoi dans des piluliers en verre? Pour deux raisons, en fait. Une, parce que le verre est un matériau inerte et donc il va réagir très peu, voire pas du tout avec le contenant. Donc ainsi, on s'assure que s'il y a une instabilité, c'est dû uniquement à la formule. Et deuxièmement, parce que le verre est transparent et donc il est très facile de juger si le produit déphase. Ensuite, je vous ai dit que le produit était gardé à différentes températures. Donc il est gardé au réfrigérateur pour vérifier qu'il résiste au froid. Il est placé dans des étuves au chaud, donc entre 40 degrés Celsius et 50 degrés Celsius pendant plusieurs mois, entre 3 et 6 mois environ, pour ainsi, imiter le vieillissement qu'il aurait dû endurer sur plusieurs années, entre 2 et 3 ans. De plus, il est aussi possible de faire subir au produit des cycles de froid et de chaud en alternance pour imiter les conditions extrêmes de transport, par exemple. Ainsi, le produit peut endurer des températures de moins 10 degrés Celsius à plus 40 degrés Celsius dans la même journée, et ce pendant plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours. Les procédures exactes dépendent des laboratoires, mais le but reste toujours le même. Le but, c'est du coup de faire subir des conditions extrêmes au produit pour essayer d'imiter l'état dans lequel il serait s'il avait passé plusieurs années dans des conditions normales. Ainsi, on peut vérifier sa stabilité dans le temps. Donc ça veut dire qu'en quelques mois seulement, on peut avoir une très bonne idée si le produit est apte à être utilisé quelques années après sa production, d'un point de vue de sa sensorialité uniquement, dans le cas du test de stabilité. Aussi, et pour gagner du temps, on essaye de se rendre compte d'une instabilité le plus rapidement possible, et donc on vérifie le produit qui est gardé aux étuves fréquemment et à des intervalles de temps précis pour que ce soit comparatif d'une formule à l'autre. Donc plus vite on se rend compte que la formule est instable, et plus vite on peut reformuler et suivre de nouveau le nouvel essai en stabilité. Aussi, il est également possible de mettre le produit à la centrifugeuse pour tester sa robustesse. Donc ce test est extrêmement pratique parce que en quelques dizaines de minutes, il est possible d'avoir une première évaluation de la stabilité du produit. Donc vous savez, une centrifugeuse, c'est la machine qui permet de soumettre le produit à des rotations très rapides, ce qui peut déstabiliser une émulsion par exemple si elle n'est pas assez robuste. Donc ça, c'est un autre test pour évaluer la stabilité rapidement. Depuis le début de cet épisode, on parle d'instabilité. Mais comment se traduit vraiment une instabilité? Donc, prenons l'exemple d'une émulsion. C'est un système difficile à stabiliser. Pour rappel, une émulsion huile d'en haut, c'est un système qui est composé de petites gouttelettes d'huile qui sont dispersées dans un système à queue. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode 2 qui s'appelle « La mayonnaise et la vinaigrette » qui explique plus en détail ce qu'est une émulsion. Donc, une émulsion, elle est stable grâce aux tensioactifs, aussi appelés émulsifiants. Donc, vous vous rappelez, les émulsifiants, ce sont les petites molécules qui se mettent à l'interface entre l'huile et l'eau. Donc, l'émulsifiant, il va séparer les gouttelettes les unes des autres et il va augmenter la répulsion que les gouttelettes, elles ont les unes pour les autres aussi. Et grâce à cette force de répulsion, l'émulsion est stable. Cependant, si l'émulsion est trop faible et que cette force de répulsion n'est pas assez forte, alors les gouttelettes, elles vont se regrouper les unes aux autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la coalescence. Et elles vont former des gouttelettes de plus en plus grosses. À terme, toutes les gouttelettes se regroupent et forment une face distincte, c'est le déphasage. Donc le déphasage, c'est un vrai problème et c'est un vrai phénomène d'instabilité. Le système est alors composé de deux phases distinctes, on peut vraiment le voir. Et généralement, la phase huileuse se retrouve au-dessus, car sa densité est inférieure à 1, donc sa masse volumique est plus faible de celle de l'eau. Donc on va avoir une phase d'huile au-dessus et une phase composée d'eau, ou une phase aqueuse en tout cas, en dessous. Donc, vous imaginez bien que si le client, il achète sa crème toute neuve, il ne va pas être vraiment content s'il ouvre son pot et il va découvrir une phase d'huile à la surface. Donc il faut vraiment et impérativement vérifier la stabilité de la crème et vérifier qu'elle soit optimale avant la mise sur le marché. Nous parlerons d'instabilité dans un prochain épisode qui sera consacré uniquement à ce sujet. Ensuite, il faut vérifier la compatibilité de la formule avec l'emballage. On dit la compatibilité contenant-contenu. En effet, certains ingrédients peuvent interagir avec certains matériaux de l'emballage. Il est alors possible, par exemple, que certains alcanes déforment certains plastiques. Pour autant, ça ne veut pas dire que les alcanes sont dangereux pour la santé, mais ça veut dire qu'il faut vérifier que tous les ingrédients sont compatibles avec le matériau de l'emballage. Ainsi, on s'assure que notre tube de crème ne va pas se déformer au cours du temps, qu'il ne va pas fuir, qu'il ne va pas gonfler, qu'il ne va pas avoir de déformation, etc. Et pour s'assurer de cela, donc le test de compatibilité va être très similaire au test de stabilité, à la différence qu'on place la formule dans le packaging final et non dans les piluliers en verre aux étuves. Et ainsi, on suit l'évolution du produit dans son packaging final, ça pendant plusieurs mois dans des conditions de vieillissement accéléré. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez davantage sur les tests de compatibilité et de stabilité. Un nouvel épisode sortira samedi prochain et vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur mastel.fr dans la rubrique « Les dessous de la cosmétique ». Mastel, ça s'écrit M-A-S-T-E-L et ça est la contraction de mes deux noms de famille, Magan et Castel. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions ou à indiquer ce que vous aimeriez entendre par la suite. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur différentes plateformes de podcasts, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, et suivre son actualité sur Instagram et sur Twitter avec l'identifiant mastel-cosmétique en anglais au pluriel. Aussi et bien sûr, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient l'apprécier. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez prendre en screenshot l'épisode du podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et mettre ça en story sur Instagram en me taguant. Je vous souhaite une très belle semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode sur la peau. Bye !